BW. Magazine Santé.
Quatrième et dernier volet de notre série consacrée aux médicaments. Cette semaine, on se penche sur la relation entre drogue et médicaments et la dépendance que certaines substances utilisées à des fins thérapeutiques peuvent entraîner. Mais on s'intéressera également au tramadol, un antidouleur dont l'usage abusif en Afrique suscite des inquiétudes. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Chauffeur de taxi, moto, collégien, lycéen, le profil de ceux qui n'hésitent pas à consommer le tramadol pour une raison ou une autre est varié. Cet antidouleur bon marché aux effets euphorisants est présent dans plusieurs pays sur le continent. En Côte d'Ivoire, le tramadol, comme beaucoup d'autres médicaments, se vend aujourd'hui dans presque tous les coins de rue. Et certains l'utilisent sans aucune prescription médicale en ignorant les conséquences sur leur santé et leur vie. Les explications de Julien Adaé, notre correspondant à Abidjan.
J'avais des douleurs et je suis passée voir le médecin. Il m'a prescrit du tramadol. Ça a vraiment augmenté, je dis bien augmenté mes douleurs. En plus de cela, des vomissements, la bouche sèche, des maux de tête. Vraiment, je somnolais à chaque moment. Des démangeaisons, je vous le déconseille vraiment. Waouh!
Anita a gardé un mauvais souvenir de la prise du tramadol qui lui avait pourtant été prescrit. Cette antidouleur proche de la morphine est toutefois souvent détournée de sa fonction première. Certains patients l'utilisent en tant que drogue et de plus en plus en automédication.
J'ai un copain qui utilisait tramadol pour aller travailler au port où il soulevait des caisses. Et comme il est payé par rapport au nombre de caisses ramassées, il en prenait presque tous les jours. Et j'ai un autre camarade qui l'utilisait à chaque fois qu'il avait des rapports sexuels. Il me disait que ça rendait performant et viril au lit. Ce dernier est décédé il n'y a pas longtemps.
J'ai une fois payé aussi. Quand j'ai mal à la tête, je vais payer. Ou bien quand je ne me sens pas trop bien, je vais payer. Tu vas partir à l'hôpital, ils vont te prescrire des médicaments. Et que toi-même, tu n'as pas les moyens pour aller à la pharmacie.
Souvent, c'est périmé, on ne sait pas, on prend plus. C'est pas bon, quoi.
Certains médicaments permettent de se shooter à bas prix et sur le marché noir. D'autres produits médicamenteux sont très recherchés en Côte d'Ivoire à l'image du tramadol. Ainsi, les services de lutte contre la drogue ont saisi en 2018 plus de 44 tonnes de médicaments détournés à des fins de toxicomanie. Et une saisie record en fin 2019 de 200 tonnes de faux médicaments à Abidjan. Un réseau bien organisé soutient Bossou Aoussi, directeur de la police sanitaire.
C'est une véritable activité pour une partie de la population. Et donc, toutes les méthodes de lutte qui sont mises en place, à côté, eux aussi, ils mettent en place des méthodes pour pérenniser l'activité. Toutes ces sensibilisations ne prennent pas. Mais c'est parce qu'on veut prendre le problème de façon isolée. Le problème des faux médicaments ne peut pas prendre de façon isolée. Toutes les sensibilisations que nous menons, est-ce que ça passe? Parce que comment comprendre que, après toutes ces années, alors qu'on explique aux populations que ces médicaments-là, au lieu de les soigner, les mènent plutôt vers la mort, comment comprendre que ces populations continuent?
Pour s'approvisionner en Côte d'Ivoire en médicaments, pas forcément besoin d'aller en pharmacie ou d'avoir une ordonnance médicale. Les vendeurs ambulants de médicaments vous proposent un antidouleur au prix de 100 francs CFA. Pourtant, la consommation illicite et répétée en automédication du tramadol, au point d'en devenir dépendant, peut causer de nombreux problèmes médicaux, nous explique Sosten Abo, médecin urgentiste à la clinique médicale d'Anga d'Abidjan. Il met en garde sur les effets secondaires de la consommation de l'antidouleur.
Le tramadol utilisé de façon fréquente et prolongée expose à manifester des signes cliniques divers qui peuvent aller de troubles neuropsychiques jusqu'à des troubles neurosensoriels, digestifs ou une anomalie au niveau des muscles lisses. On pourrait citer par exemple au niveau du système nerveux et central et périphérique, on pourrait citer des vertiges, des tremblements, une dépression respiratoire, des convulsions tonico-cloniques généralisées, des hallucinations, une confusion mentale, des troubles du sommeil allant jusqu'à une insomnie complète ou un état de somnolence important. Il y a rapporté des cauchemars chez des utilisateurs prolongés de tramadol, des troubles de l'humeur, avec un retentissement sur l'activité physique et professionnelle du sujet. On peut citer entre autres troubles, un flou visuel, des difficultés respiratoires, des nausées, vomissements, une sécheresse buccale, de la diarrhée, des sueurs profuses, des démangeaisons diffuses au niveau du corps, une faiblesse musculaire chez certaines personnes.
Ailleurs, dans certains pays européens, depuis le 15 avril dernier, les médicaments comme le tramadol pris par voie orale ne pourront plus être prescrits sur plus de 3 mois, tandis que dans certains pays africains, le tramadol se vend dans presque tous les coins de rue. Julia Daillé, Abidjan, pour la Deutsche Welle.
Le tramadol, vous l'avez entendu tout à l'heure, est utilisé comme une drogue et crée une certaine dépendance. Drogue et médicaments, quelle différence, quel regard porter sur cette tendance des consommateurs à continuer à prendre des produits qui nuisent à leur santé? On en parle avec Jean-François Hauteville, infirmier spécialisé en addictologie, membre de l'association SOS Addiction.
Alors, qu'est-ce qu'une drogue? Une drogue est une substance psychoactive qui va induire une problématique de dépendance qui peut produire une problématique addictive par la suite. Pour que ça devienne une addiction, il y a 3 facteurs qui vont interagir. Le facteur individuel, qui vont être des facteurs génétiques, physiologiques, psychiatriques, des événements de vie traumatiques, qui eux vont venir rencontrer des facteurs environnementaux, c'est-à-dire familiaux, des antécédents, le fonctionnement, l'éducation, les facteurs sociaux, des événements, l'influence des pairs, et des facteurs liés à la substance, c'est-à-dire le potentiel de dépendance et conséquences médicales, physiologiques, sociales.
Oui, est-ce qu'il faut faire une différence entre une addiction et une dépendance?
Alors, pour moi, on parle de dépendance lorsqu'on va souffrir d'un syndrome de sevrage à l'arrêt brutal de la consommation. Alors que l'addiction, c'est une consommation excessive d'une substance en dépit des conséquences néfastes liée à cette consommation.
Il arrive que certaines drogues se présentent sous forme de médicaments. Drogue, médicaments, quelle différence, quelle ressemblance?
La différence va se situer, à mon sens, dans le potentiel addictogène du produit. Alors, les médicaments peuvent entraîner une dépendance, c'est-à-dire qu'on va devenir dépendant. La différence, c'est que quand ça va devenir une addiction, quand on va être dans un mésusage de ces médicaments, c'est-à-dire qu'on va pas uniquement être dépendant en plan neurobiologique de ce médicament, mais qu'on va s'en servir, entre guillemets, pour d'autres effets, en fait, pour soulager une douleur, une souffrance psychique. Et là, on va avoir du mal à lâcher le produit, non pas parce qu'il rend dépendant, mais parce que la fragilité individuelle, les événements de vie, les problématiques psychiatriques vont venir en corrélation avec la substance et les facteurs environnementaux, vont amener une addiction.
Et qui dit addiction dit donc consommation de produits psychoactifs. Comment sortir de cette dépendance?
On a plusieurs étapes dans une problématique addictive. Il y a des théoriciens comme Prochaska et Dick Clément qui ont démontré qu'on a plusieurs phases. On va consommer un produit et on va, dans ces phases-là, banaliser cette consommation. Puis on va, après cette phase de pré-contemplation, être dans une phase de contemplation où là, on va percevoir le caractère pathologique de notre consommation. On va ne plus être dans ce qu'on appelle en psychiatrie dans le déni de notre consommation. Le déni étant une défense inconsciente. Je ne peux pas accepter d'être dépendant.
Et justement, comment en sortir? Comment aller au-delà de ce déni?
Il faut souvent plusieurs années de consommation. C'est un cheminement. Par exemple, on dit que pour les consommateurs d'héroïne, il faut à peu près 20 ans de consommation pour arriver aux soins. On refuse d'accepter d'être dépendant. Après, on va avoir, par le biais des propres pertes liées aux produits, par rapport au regard des autres et par rapport à ce que la dépendance et l'addiction va générer en termes de pertes, se rendre compte qu'effectivement, on a un problème. Mais le fait de prendre conscience de la problématique n'est pas suffisante. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas forcément suffisante pour aller en soins.
Alors, on parlait tout à l'heure du lien entre drogue et médicaments. Il y a la question de l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques qui suscite des débats. Certains pays ont franchi le pas et l'ont légalisé, d'autres hésitent encore. Pourquoi ce sujet fait tant polémique, de votre point de vue?
Dans le cannabis médical, ce qui pose problème, ce n'est pas tellement la prise du produit qui pose problème, c'est les modalités de consommation qui posent problème. Si on libère, entre guillemets, la consommation de cannabis médical à des fins thérapeutiques, on va ouvrir la voie au cannabis récréatif.
Il y a aussi la morphine, dont certains peuvent être dépendants. Et là également, c'est un produit puissant. Que penser de ce débat sur l'usage ou pas de la morphine?
L'usage de la morphine, c'est certainement un mésusage de ces opiacés qui est souvent induit par une prescription par des médecins qui vont donner cette molécule-là, ces opiacés-là, pour soulager une douleur. Mais il faudrait que cette prescription-là ne dépasse pas 3-4 semaines. Parce que très vite, on va devenir dépendant de ces opiacés.
Du coup, que faut-il pour arrêter?
Il faut une prise de conscience, c'est un processus qui est complexe, où le patient va à un moment donné percevoir, si on parle de la balance avantages-inconvénients, c'est quand le patient va percevoir que les inconvénients vont être plus importants que les bénéfices, qui à ce moment-là va se dire peut-être il faut que je me fasse soigner. Mais ce n'est pas une question de volonté, parce que la volonté elle est abolie dans les addictions. On peut le vouloir, mais on ne le peut pas.
Les explications de Jean-François Hauteville, infirmier spécialisé en addictologie, membre de l'association SOS Addiction. Un petit rappel à présent au sujet du coronavirus Covid-19.
Covid-19, règles et conseils. Se laver fréquemment et soigneusement les mains. Éviter au maximum de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Respecter les règles élémentaires d'hygiène. Éternuer et tousser dans un mouchoir à usage unique, jetez-le immédiatement ensuite. Si vous n'avez pas de mouchoir, utilisez le pli de votre coude. Évitez les grands rassemblements, les activités non indispensables. Maintenez une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui vous entourent. Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades. Évitez de fréquenter des personnes fragiles. Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous. En cas de fièvre, de toux et de problèmes respiratoires, appelez votre médecin. Évitez tout contact inutile avec les animaux sauvages. Pensez à suivre les instructions des autorités sanitaires de l'endroit où vous vivez.
C'est avec ces conseils que prend fin ce numéro du magazine Santé. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle série. Nous nous intéresserons au personnel soignant dans les centres de santé. D'ici là, prenez soin de vous.
Les médicaments de la rue ont des conséquences néfastes.